Chapitre 25e, il sandwich, Wahoo, commerce, coup d'œil général. Comment expliquer les deux contrastes qui viennent de frapper mes regards quand on les comprend à peine? Vous avez vu les naturels de Wuyi, en tout semblable au volcan qui mugit sous leurs pieds et sur leur tête, toujours prêt à s'élancer à la moindre menace de la catastrophe. À deux pas de là, Mowé, calme et presque endormi, des hommes, des femmes, des enfants, laissant doucement glisser la vie, sans songer au jour qui vient de mourir, sans s'occuper de celui qui va naître, nonchalamment étendus sous leurs éternels parasols de verdure, et respirant à l'aise la brise de mer qui ne leur fait jamais défaut. Et maintenant encore, à deux pas de Mowé, une île, Wahoo, peuplée de sandwichiens d'une autre humeur, ou plutôt d'une race d'hommes donnant un perpétuel démenti par leurs mouvements aux êtres qui les entourent. À Mowé, le bonheur, c'est le repos. À Wahoo, il n'est que dans l'activité. Là-bas, on sourit quand on clôt la paupière. Ici, quand on l'ouvre après le sommeil. D'une part, toute marche semble une tâche lourde et pénible. De l'autre, toute course devient un amusement. Le bruit du canon ferait tomber en défaillance les habitants de l'Aéna. Ceux d'Anururu l'écoutent avec délice. Le chant, la danse, sont inconnus au premier village. Au second, la parole est une musique, la danse une marche. Il y a 2000 lieues entre les deux îles. Il n'y en a plus encore entre Mowé et Ouyé. Mais la cause de ces différences, qui en indiquera l'origine? Depuis quand existent donc ces illogiques contrastes, faisant mentir toutes les hypothèses, imposant silence à toutes les théories? On dirait vraiment que si, par exception, la principale île des sandwichs a nourri dans son sein quelques hommes au caractère joyeux, à l'humeur pacifique, quelques femmes âpres au plaisir bruyant, au repos du corps et de l'âme, tous se sont élancés un beau jour au milieu des flots, les uns pour habiter la haine à la suave, la douce, la solitaire, les autres pour peupler Anururu, la vive, l'enjouée, l'heureuse aussi comme sa voisine, mais avec une couleur plus tranchée. Au surplus, si l'aspect d'Ouyé vous étonne d'abord et vous glace d'épouvante, si la vue de Mowé vous afflige au premier coup d'œil et vous réjouit plus tard en face de l'Aéna, la situation riante d'Anururu, encadrée de belles collines médiocrement élevées et laissant au regard de petites échappées ouvertes un lointain vaporeux, vous force à vous mettre de moitié dans les plaisirs de cette île fortunée où naguère encore eu lieu, comme un Mowé, une sanglante bataille de laquelle sortit vainqueur le grand Tamahama. Anururu est plus qu'un village, plus qu'une ville, c'est une capitale. Il y a là des huttes, des cabanes, des hangars, des temples, 3 ou 4 maisons européennes, 2 comptoirs américains, une plaine unie, émaillée, 2 larges et profondes rivières, l'une au nord, l'autre au sud, un volcan éteint, jaune et rapide comme une meule de blé, un ciel d'azur, une rade large, sûre, spacieuse, et une barre avec une belle ouverture par laquelle les navires menacés peuvent se mettre à couvert de toute bourrasque, de toute tempête, dans un port tranquille et abrité. Le mouillage de Wahoo se nomme pas. On laisse tomber l'ancre à 4 encablures de la ville et à 2 de la chaîne de brisants. Les pointes en forme de croissant de l'Iaï et de l'Ayola ne garantissent que faiblement la baie des vents les plus fréquents dans ces contrées intertropicales. Mais comme la sortie est facile, comme l'entrée du port l'est également, le mouillage de Wahoo sera toujours regardé comme le plus attrayant de tout l'archipel. Par-dessus de l'apathie qui fait le fond du caractère sandwichien, on doit s'attendre à trouver à Wahoo une grande partie du sol inculte et d'un rapport à peu près nul. Ainsi en est-il. Peu de culture, des plantations négligées, des champs abandonnés à la générosité seule de la terre, point de limite d'une propriété à l'autre, point de loi protectrice pour la garantie du possesseur, et tout cela encore aux portes même de la ville, tout cela adossé pour ainsi dire aux cabanes, car l'insouciance des habitants est telle qu'ils ne veulent point aller chercher au loin ce qu'ils peuvent trouver sous leurs pas. Les courses et le travail voleraient trop d'heures au plaisir, et c'est le plaisir seul qui fait leur vie. Dans Anururu, sur les places publiques de cette joyeuse cité, vous trouvez à chaque instant du jour une foule assez compacte de gens, allant à droite et à gauche, rien que pour aller. Des hommes forts et lestes jouent à des tours d'adresse. Des jeunes filles courant après vous pour vous inviter à je ne sais quelle distraction du pays. Des guerriers avec leurs casques originaux, parés comme en un jour de fête. et tout cela plein de force et de sève, le sourire à la bouche, l'ardeur à l'œil, la souplesse dans les membres. La population entière d'Anururu est sans cesse à la veille d'un événement imprévu. On dirait qu'elle sort à peine d'une catastrophe récente, et si l'on ne l'étudiait pas avec attention, on serait tenté de la supposer dans l'anxiété de quelque sinistre désastre. Loin de là pourtant, cette turbulence qui la tient en haleine est dans les mœurs, dans les usages, dans le sang de ce peuple à part. Il est bon, généreux, attentif, hospitalier, mais parleur, questionneur, indiscret. Vous êtes accueillis dans chaque case avec un empressement qui va jusqu'à la violence. Mais une fois là, vous devez vous attendre à un flux de paroles dont un roulement de tambour peut seul vous donner une idée exacte. Le naturel de Waou veut tout apprendre, tout savoir. Je dis plus, il sait tout, et il demande à chacun la confirmation de ce qu'il sait déjà. Le parler est pour lui d'une nécessité absolue. Sa langue est en activité, soit qu'il se trouve avec vous, soit qu'il se promène seul. On jurerait qu'il en a plusieurs. Il vous demandera comment s'appelle un bouton, comment on le fait et à quoi il sert. Il vous voit coiffé d'un chapeau et il comprend certes pourquoi on le place sur la tête. Eh bien, à Anururu, chaque individu vous demandera le nom du chapeau, et quand il aura achevé sa longue série de questions, il les recommencera, comme s'il avait oublié tout ce que vous venez de lui dire. La vie des naturels de Waou est une fièvre perpétuelle. Mais ce qu'il y a de bizarre et de curieux dans tout cela, c'est que les chefs, qui en certaines occasions savent établir tant de différences entre eux et le peuple, se mêlent ici à la foule, rient, chantent, cabriolent avec tous, et proposent des paris d'hameçon, de clous, de coco, de brasses d'étoffe, aux jeux intéressants que je vous ai déjà fait connaître. Le gouverneur d'Anururu, surtout, ivre dès le matin avec Lava, ivre à midi, le soir et la nuit avec Lava, était le plus ardent des joueurs et des parieurs, et dans des zigzags perpétuels sur la plage ou sur la pelouse, il tombait 100 fois, et ne parvenait à se tenir debout quelques instants sur ses pieds qu'à l'aide de 5 ou 6 esclaves, dont l'un, armé d'un vaste parasol chinois, et un autre d'un éventail de plumes, protégeait le colosse abruti contre les insectes et les rayons d'un soleil trop ardent. On ne fait rien ou presque rien ici pour mettre à profit les richesses immenses qu'on pourrait tirer d'une terre si variée et si féconde. Ouyé, sous ce rapport, n'offre guère de ressources aux spéculateurs. Miatoyai, Mowé et Waou pourraient, en fort peu d'années, devenir de belles et florissantes colonies. Les Américains ne l'ignorent pas, eux qui, rivaux heureux des Anglais dans une grande partie du monde, savent si avantageusement s'établir partout où les profits sont à peu près certains. 4 Américains de Boston et de Philadelphie, dans leurs explorations commerciales au sein des océans, s'arrêtèrent un jour à Waou et firent quelques excursions dans l'intérieur de l'île. Ils y virent des forêts riches de bois de construction, de teintures et surtout de sandales, dont ils savaient que les Japonais et les Chinois façonnaient de jolis colifichets et qu'ils achetaient fort cher. Leur plan fut bientôt arrêté, et depuis 10 ans qu'ils l'ont mis à exécution, leur fortune s'est considérablement accrue, malgré les difficultés sans nombre que présentent toujours les premières bases d'un établissement informé. Au surplus, on n'a pas fait à Waou ce qu'on aurait pu y faire. Ces 3 petits comptoirs américains, qui pourraient s'occuper de commerce, ne s'occupent à proprement parler que de contrebande. Je ne vous dis pas que les profits sont moins grands, je vous dis seulement qu'ils sont moins honorables, et cela importe fort peu aux banquiers de Waou. Voici en quoi consiste toute leur industrie. Ils ont, dans un des ports de la côte ouest d'Amérique, un correspondant ou deux qui profitent de la belle saison pour mettre à la voile, chargés de pelleteries achetées à peu de frais. Leurs navires cinglent vers le Japon, la Chine et le Bengale. Ils font échelle à Waou avant de remonter vers le nord, laissant en sandwich des vivres, du vin, des liqueurs et quelques étoffes. Puis, complétant leur cargaison avec du bois de sandales, ils touchent à Yedo, à Canton, à Macao, à Calcutta. Ils courent les caravanes, emportant les riches pelleteries, égorgés de roupies, les navires voyageurs redescendent à Maurice, glissent devant le cap de Bonne-Espérance et regagnent leur pays pour recommencer ce trajet par le cap Horn. Mais le bois de sandales, que coûte-t-il aux Américains? Rien, c'est-à-dire peu de choses. Un de leurs navires est continuellement dans la rade de pas. Dès que la cargaison est complète, il y a repos et calme au comptoir. Sitôt que l'exportation s'est effectuée, les Américains m'ont fait une visite au gouverneur. Ils lui offrent quelques douzaines de bouteilles de vin et d'eau de vie. Il le jette à terre pour le ressaisir à son réveil et lui procurer les mêmes délassements. Pendant ce temps, des sandwichiens, qui ne comprennent pas trop pourquoi on attache tant de prix à un certain bois inutile pour eux, sont expédiés dans les montagnes et abattent les forêts. Les femmes robustes chargent leurs épaules des dévastations trimestrielles ou en forment des radeaux qui descendent le long des rivières. Mais comme Tamahama avait établi un droit sur ses denrées, que Riou l'a maintenu, qu'il deviendrait lourd à subir et que les Américains veulent s'en affranchir de gré ou de force, ceux-ci, à l'approche de la nuit où la caravane arrive sur la côte, réunissent dans un large festin les second et troisième chefs d'Anururu, les Grises, comme ils l'ont fait de Kramaïkoukou Cadet, leur donnent pour les paris du lendemain quelques brasses de mauvaise toile bleue, et le brick en station plonge un peu plus sa coquille dans les eaux pour se délester quand les vieux amis viendront mouiller à contrebord. Les bois de construction qu'on trouve dans l'intérieur de tout l'archipel sont d'une qualité supérieure, et la plupart sont précieux pour la mature. Les Américains de Wau le savent bien, ainsi que les Anglais d'Owiye et d'Atoyai, car ils font payer cher aux navires entamés par les avaries les réparations qui leur sont nécessaires. Quant au bois de teinture, le commerce en est infiniment négligé. Les insulaires ne s'en servent que pour les bizarres bariolages des étoffes et les couches dont ils prétendent embellir leurs ignobles idoles. Je ne sais si les petits oiseaux dont les plumes rouges servaient à parer les chefs de Tamahama ont émigré en d'autres climats, ou si la guerre qu'on leur a faite les a rendus plus rares ou plus sauvages. Toujours est-il qu'on ne voit presque plus de ces magnifiques vêtements dans tout l'archipel et qu'on les vend maintenant fort cher aux étrangers. Jadis, les manteaux, les casse-têtes, les éventails, les casques, les étoffes de Palma Christi étaient de véritables objets de commerce qui valaient au naturel de la poudre, des fusils, des canons, des sabres et beaucoup de bagatelles et curiosités européennes. Aujourd'hui, les musées sont trop bien approvisionnés de ces curieux ornements et armes pour que nous attachions le même prix à leur possession. Notre indifférence n'aura-t-elle pas découragé les habitants de cet archipel? Au surplus, je dois à la vérité de dire que jusqu'à présent, les sandwichiens sont, de tous les peuples de la terre, le moins propre à tout commerce et à tout négoce. Ainsi que les bons Carolins, dont le souvenir me poursuit avec tant de bonheur, ils ont trop de loyauté dans l'âme, trop de désintéressement, peut-être aussi trop peu d'ambition et de désir à satisfaire. Et maintenant, que conclure de l'aspect général de cet archipel? Comment formuler une opinion précise sur ces hommes si diversement taillés au moral et au physique? Y a-t-il dans tout cela un avenir de grandeur et de prospérité, où les bras se lèveront-ils à la fois pour lutter contre une civilisation usurpatrice et la refouler au-delà des mers? Rien dans le présent ne peut servir de règle pour la solution de questions aussi graves. Rien ne peut indiquer la route à suivre pour donner à ces bons naturels des idées de progrès, qui exigent des études et un travail toujours lourd, à qui l'habitude non moins pesante du désœuvrement et de la paresse. Je le répète, ce groupe d'îles si bien placé pour servir d'échelle aux navires venant du Cap Horn ou de la côte ouest d'Amérique, pour aller en Chine ou dans les Indes orientales, n'est maintenant qu'une relâche utile à certains approvisionnements. Mais quand l'industrie aura parlé, il deviendra peut-être une des plus riches et des plus puissantes colonies du monde. Nous nous sommes éloignés de Wuyé comme d'un spectacle imposant, majestueux et terrible à la fois, qu'on serait au désespoir de n'avoir pas observé, alors qu'on en a mesuré toute la grandeur. Nous avons salué Moé comme on quitte un ami plein de bonheur, en adressant au ciel des vœux fervents, pour que nulle colère des flots et des hommes ne vienne tuer tant d'ivresse et de calme. Puis nous dîmes adieu à Wahou, le cœur serré, l'âme attristée et endolorie du tableau de cette population qui comprend la vie de plaisir, mais au milieu de laquelle la spéculation américaine est déjà venue jeter un voile sombre pour le présent, terrible peut-être dans l'avenir. Je partis le dernier. Je quittai Anururu, prodigue envers les insulaires de la presque totalité de mes colis fichés, et je versais bien de la reconnaissance dans les cœurs. Il n'y avait pas dans cette capitale 20 individus qui n'eussent appris à prononcer mon nom.